Si vous voulez bien, je vais commencer et, comme d'habitude, donner la liste des séminaires du mois de janvier, du mois d'octobre, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, à 11h, nous aurons Angela Di Virgilio, de l'Institut National de Physique Nucléaire de Pise, va nous parler de Virgo, le projet de détection des ondes gravitationnelles. Et le titre, c'est Virgo, the Gravitational Wave Antenna Designed for Low Frequency Detection. La semaine prochaine, le 13 octobre, ce sera Isabelle Bouchou, du laboratoire Cassia-Brossel, de l'École normale supérieure, qui nous parlera d'expériences récentes qui ont été réalisées dans son équipe, avec Christophe Salomon et d'autres personnes. Le titre s'appelle Visualisation de la distribution en vitesse d'état vibrationnel d'un atome piégé. Je connais enfin maintenant les deux derniers séminaires d'octobre. Le 20 octobre, ce sera Johannes Söding, du laboratoire Cassia-Brossel, également, qui nous parlera, qui fera un petit peu le point sur le césium, collision ultrafroide et condensation de Bose-Einstein, le cas du césium. Ça sera tout à fait en liaison avec le cours, puisque je parlerai pendant les trois premiers cours du problème des collisions. Enfin, le 27 octobre, à 98, à 11h, ce sera Rudolf Grimm, de l'université de Heidelberg, qui nous parlera de nouveaux types de pièges pour atomes, Novel Dipole Force Atom Traps. Bon, je commence donc, d'abord aussi, je voulais dire que je suis heureux qu'on fasse cette course cette année dans les nouveaux amphis du Collège de France, qui ont mis près de 7 ans à être construits. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le cours du séminaire, qu'il y a un grand amphi tout à côté, où il y a actuellement un colloque sur les neurosciences, un amphi superbe qui contient 450 places. Et donc vraiment, la situation des salles de cours au Collège de France a complètement changé. Donc, je voudrais faire un petit peu une introduction générale aujourd'hui, et je vous rappelle que un petit peu où nous en sommes actuellement. Dans le cours 96-97, j'ai fait un cours d'un an sur les pièges magnétiques. Et le refroidissement évaporatif. Ceci après toute une série de cours de plusieurs années sur le refroidissement et le piégeage des atomes par faisceau laser. J'ai parlé de ces deux techniques qui se sont révélées cruciales pour l'obtention de la condensation de Bose-Einstein. Puis en 97-98, l'année dernière, j'ai commencé un cours donc sur la condensation de Bose-Einstein des gaz ultra-froids. Les circonstances particulières de l'an dernier ne m'ont pas permis de faire cours pendant le mois de décembre, et je n'ai pu donc traiter l'an dernier que le cas des bosons sans interaction. Et cette année, donc, et les années suivantes, je pense, parce que c'est un cours qui va s'étendre sur plusieurs années, je voudrais tenir compte des interactions. Et là, il s'agit d'un sujet extrêmement vaste et important que je voudrais aborder avec un assez grand détail. Alors, comme toujours, avant de commencer le cours de cette année, je fais quand même un rappel extrêmement bref du cours de l'an dernier. Et vous trouvez dans les notes qui vous ont été distribuées mon rapport d'enseignement qui résume les 6 cours qui ont été donnés l'an dernier. Je vais ici simplement vous donner les points saillants les plus importants et qui me serviront dans le cours de cette année. Comme ça dit le rappel, je vais faire ces rappels sur transparent. Nous sommes partis de l'ensemble grand canonique, qui est le plus commode pour calculer les propriétés des condensations. Et l'opérateur densité d'équilibre, D, étant de la forme, une constante de normalisation, et puissance moins bêta H moins mu n, où bêta, c'est 1 sur kT, où kB est la constante de Boltzmann, T la température, H l'opérateur énergie, N l'opérateur nombre de particules, et ZG c'est la trace de l'opérateur qui est ici, de manière que l'opérateur densité D soit normalisé, qu'il ait une trace égale à 1. ZG, qui est la trace donc des puissances moins bêta H moins mu n, a un nom important, c'est la grande fonction de partition, et elle dépend de la température de mu, mu est le potentiel chimique, et du volume. Alors, les quantités importantes sont donc la température, ou bêta qui revient au même, mu le potentiel chimique. Souvent, à la place du potentiel chimique, on introduit plutôt Z égale puissance bêta mu, la fugacité. Et vous vous rappelez comment on détermine D? On détermine D en calculant l'entropie statistique et en maximisant l'entropie statistique du système. Compte tenu des contraintes, on suppose, si vous voulez, que le système échange des particules et de l'énergie avec un réservoir, caractérisé par la température et le potentiel chimique, et on maximise l'entropie compte tenu des contraintes que l'énergie est fixée en valeur moyenne et que le nombre de particules est fixé en valeur moyenne. Enfin, si on connaît log de Zg, on connaît le grand potentiel thermodynamique, J égale moins kT log de Zg, à partir duquel, par différenciation, on obtient toutes les grandeurs physiques, nombre de particules, énergie interne, pression, etc. En fait, l'an dernier, nous nous sommes limités au cas des bosons sans interaction, auquel cas l'hamiltonien H du système est de la forme H de 1 plus H de 2 plus H de n. C'est une somme d'hamiltonien à une particule. Et on suppose connus les états propres lambda et les valeurs propres epsilon lambda de l'hamiltonien à une particule. Ce qui est important, c'est à ce moment-là que Zg peut être calculé analytiquement et qu'on en déduit toutes les grandeurs physiques, en particulier le nombre d'occupations moyens, n indice lambda moyen, de l'état individuel lambda d'énergie epsilon lambda. Et on trouve la fameuse formule de, connue sous le nom de distribution de Bose-Einstein, n lambda moyen égale 1 sur et puissance bêta et puissance lambda moins mu, epsilon lambda moins mu moins 1, qu'on peut encore écrire 1 sur z moins 1 et puissance bêta epsilon lambda moins 1. Si vous regardez cette formule, n lambda est un nombre d'occupation, donc ça doit être positif. Il faut donc que l'exponentielle ici soit plus grande que 1. Comme bêta est positif, il faut que epsilon lambda moins mu soit positif, quel que soit lambda. Et si j'appelle epsilon 0 la plus petite valeur de epsilon lambda, l'état fondamental de l'hamiltonien à une particule, je dois avoir mu plus petit que epsilon 0. En fait, dans un problème donné, on n'est pas tout à fait dans l'ensemble grand canonique, parce que le nombre de particules est fixé, mais les calculs sont beaucoup plus simples dans le cas de l'ensemble grand canonique, et on peut montrer que la présence des interactions atténue cette incorrection d'utiliser l'ensemble grand canonique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se donne la température, on se donne le nombre total de particules, et on détermine mu en écrivant que sigma lambda de n lambda moyen égale n. Et il faut que cette équation donne une valeur de mu acceptable physiquement, c'est-à-dire telle que mu soit plus petit que epsilon 0. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous prenons le cas le plus simple de bosons dans une boîte cubique de côté L et de volume V égale L cube. À ce moment-là, les états propres de la particule avec des contigions, quantifications périodiques, les composantes de l'impulsion sont des nombres entiers de fois 2pi h bar sur L. On a donc un ensemble discret de valeurs propres pour pi. Et souvent en physique, si L est suffisamment grand, c'est une très bonne approximation de remplacer cette somme discrète par une intégrale. Et on remplace sigma pi par 1 sur 2 pi h bar sur L au cube, qui est la maille élémentaire dans l'espace des impulsions, somme de 0 à l'infini de 4 pi p2 dp, multiplié la quantité qu'on veut calculer. Comme E, l'énergie, et P sont reliés simplement, cette expression s'écrit encore sous la forme somme de d epsilon, rho de epsilon, où rho de epsilon est une densité d'état, c'est-à-dire rho d'epsilon d'epsilon, c'est le nombre d'états quantiques individuels d'énergie comprise entre epsilon et epsilon plus d'epsilon. Et un calcul élémentaire montre que rho d'epsilon est proportionnel à racine carrée de epsilon. On calcule donc le nombre total de particules en multipliant le nombre d'états d'énergie compris entre epsilon et epsilon plus d'epsilon par leur nombre moyen d'occupation et en intégrant sur epsilon. Ce calcul ne pose pas de problème. Et on trouve V sur lambda de Boyle cube, G 3 demi 2 N, où V c'est le volume de la boîte, L cube, lambda de Broglie c'est la longueur d'onde de De Broglie thermique, qui est égale à racine de 2 pi h bar t, h bar 2 sur m kbt, plus t est bas, plus la longueur d'onde de De Broglie est grande, et G 3 demi 2 Z c'est une fonction de Z, qu'on appelle une fonction de Bose, qui est donnée par G k de Z, c'est somme de L égale 1 à l'infini, de Z à la puissance L, sur L à la puissance k. Et pour, il est important que dans une boîte avec des conditions limites périodiques, l'état fondamental a une énergie nulle, donc mu doit être négatif, donc z égale puissance bêta mu doit être plus petit que 1. j'ai donné ici l'expression, les variations de la fonction g3/2 de z avec z. C'est une fonction monotone, croissante, qui part de 0 pour z égale 0, qui croît et qui pour z égale 1 atteint une valeur maximale qui est 2,612 et qui est g3/2 de 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, connaissant n, on connaît donc le membre de gauche de cette équation, on connaît v sur lambda de Breuil cube, et à ce moment-là, en prenant n, on coupe cette courbe par une horizontale et on détermine la valeur de z correspondant au problème étudié. Et il faut trouver une valeur de z comprise entre 0 et 1. Donc il faut que la courbe, l'horizontale par laquelle on coupe cette courbe, soit comprise entre 0 et 2,612. Et alors on voit tout de suite la difficulté qui apparaît. C'est que si on est à une température T avec un nombre de particules n et un volume v tel que n sur v lambda de Breuil de t au cube est plus grand que 2,612, l'intersection de la courbe en rouge que j'ai donnée et de cette horizontale n'a pas de solution physiquement acceptable. Alors, l'erreur, on peut la tracer en arrière. On s'aperçoit à ce moment-là que ça veut dire qu'il nous manque des particules et que ces particules sont dans l'état fondamental et qu'on ne les a pas comptées parce qu'on a multiplié dans l'intégrale somme de n epsilon, rho de epsilon, on a multiplié la contribution de l'état fondamental, n epsilon, n0, par rho de epsilon, qui est égal à 0, puisque, rappelez-vous, rho de epsilon varie comme racine carrée de epsilon. C'est ça l'erreur. Donc il faut revenir à une somme discrète, surtout pour l'état fondamental. Il faut isoler la contribution de l'état fondamental. Et à ce moment-là, on trouve une température critique telle que n lambda de Breuil cube à la température Tc est égale à 2,612, où n est la densité spatiale, n sur v. Cette température critique définit une température en dessous de laquelle l'état fondamental se met à acquérir une population macroscopique. Donc, l'approximation continue, en dessous de Tc, l'approximation continue qui néglige cet effet, qui pondère, qui brime l'état fondamental parce qu'on multiplie par zéro, par un poids qui est égal à zéro, est incorrect. Il faut revenir à la sommation discrète, qui est la seule valable. Alors, de cette équation, comme on connaît toutes les constantes qui apparaissent dans lambda de Breuil cube, il est facile de calculer KTC, et on s'aperçoit d'un résultat important, c'est que KTC, l'énergie thermique associée à TC, est de l'ordre de delta epsilon fois n à la puissance 2 tiers, où delta epsilon, c'est l'énergie qui sépare, l'écart d'énergie qui sépare l'état fondamental du premier niveau excité dans la boîte. Autrement dit, quand la condensation de Bose se produit, la température à laquelle ça se produit, l'énergie thermique KT est beaucoup plus grande que l'écart entre niveaux successifs dans la boîte. Donc la condensation de Bose-Einstein, ce n'est pas un effet trivial lié au fait que la température KT est beaucoup plus petite que l'écart entre niveaux. Ça, c'est un point très important. Enfin, à partir de cette équation, on calcule facilement la proportion d'atomes dans l'état fondamental N0 sur le nombre total d'atomes, N0 sur N, c'est une proportion, et c'est égal à 1 moins T sur Tc à la puissance 3,5. La courbe est tracée ici. Vous voyez que quand on diminue T, qu'on arrive à T égale Tc, la population de l'état fondamental se met à croître, et pour T égale 0, toutes les particules sont bien sûr dans l'état fondamental. Ça, ce sont des résultats bien connus pour une particule dans une boîte, pour un système qu'on appelle homogène. Et vous savez l'importance qu'a revêtu le fait qu'on travaille maintenant sur des particules piégées dans un piège harmonique. Ça permet de concentrer les particules au centre du piège et d'atteindre plus facilement le seuil de condensation. Je rappelle très brièvement les résultats pour un piège harmonique, avec trois fréquences de vibration, oméga 1, oméga 2, oméga 3 sur x, y, z. Là aussi, on est tenté au début de faire une approximation continue et de remplacer la sommation sur les nombres entiers qui caractérisent les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique le long de x, le long de y, le long de z, somme sur nx, ny, nz, par somme de d epsilon, rho de epsilon. Et pour un piège harmonique, rho de epsilon, au lieu de varier comme racine de epsilon pour une boîte, varie comme epsilon au carré. Et le même raisonnement que tout à l'heure conduit à une équation, somme de n epsilon, rho de epsilon, d epsilon, égale kt cube divisé par h bar cube oméga cube, ce qui multiplie g3z, où g3z c'est la fonction de Bose d'indice 3, qui a la même allure générale de variation que g3,5, et qui a une hauteur maximale de 1,2 pour z égale 1, Et on s'aperçoit, comme tout à l'heure, qu'on a une difficulté si le nombre total de particules est supérieur à 1,2 kT au cube sur h bar cube oméga 1, oméga 2, oméga 3. Donc, comme tout à l'heure, on définit une température critique par cette équation. Et comme tout à l'heure, on trouve que kT sur h bar oméga est de l'ordre, donc autrement dit, kBT, l'énergie thermique associée à la température critique, divisée par h bar oméga, qui est typiquement l'écart entre niveaux de l'oscillateur harmonique, est égal maintenant à n à la puissance 1 tiers. Si on prend n égale 10 puissance 6, on a encore un nombre très grand de 1. Et enfin, n0 sur n égale 1 moins t sur tc au cube, qui donne une forme avec une puissance différente de variation de n0 sur n avec t sur tc. Alors, je ne rappelle pas ici, mais l'an dernier, nous avons étudié en détail comment varier l'énergie totale du système avec la température, comment varier la pression, comment varier la chaleur spécifique. Il y a toute une série d'études qui peuvent être faites sur le gaz parfait de boson. Je voudrais simplement insister ici, pour terminer ce petit rappel, sur une caractéristique extrêmement importante de la condensation de Bose-Einstein dans un piège, c'est que la condensation s'effectue non seulement dans l'espace des impulsions, mais également dans l'espace des positions. En effet, quand la condensation se produit, un nombre macroscopique de particules se condense dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, dont la dimension spatiale est de l'ordre de racine de h bar sur m oméga. Donc on a un pic, si on fait une photographie du nuage d'atomes piégés, on va avoir un pic étroit avec une largeur spatiale delta x0. Et puis les particules qui ne sont pas condensées, qui sont dans tous les états excités du piège, avec la répartition de Bose-Einstein, on peut montrer qu'elles forment un nuage thermique dont la dimension, l'extension spatiale delta xt, est de l'ordre de delta x0 que multiplie racine de kt sur h bar oméga. Vous avez vu tout à l'heure que kt sur h bar oméga valait de l'ordre de n puissance 1 tiers. Donc ceci, ça vaut n puissance 1 sixième. Si on prend n égale 10 puissance 6, on s'aperçoit que le fond thermique est 10 fois plus large que le pic des atomes condensés. Et donc, la condensation de Bose-Einstein prend ici une forme extrêmement concrète. En faisant une photo du nuage, on voit apparaître cette condensation. Enfin, le cours de l'an dernier s'est terminé par un survol des premières réalisations expérimentales. Pour mémoire, je rappelle ici la première observation effectuée à Boulder dans le groupe de Cornell et Wyman sur de l'atome rubidium 87. Vous voyez clairement ici le pic des atomes condensés émergeant au-dessus du fond thermique. Quelques semaines plus tard, c'était le groupe de Ketterley à MIT sur le sodium qui réalisait également la condensation de Bose-Einstein sur le sodium. Et là, vous voyez très clairement trois images au-dessus du seuil où on n'a que le nuage thermique. Quand on arrive juste au seuil où on voit apparaître le pic au-dessus du nuage thermique et très en dessous du seuil où on a essentiellement uniquement le pic d'atomes condensés. Depuis 1995, maintenant, il y a plusieurs laboratoires qui se sont lancés dans cette étude expérimentale. Maintenant, il y en a, je crois, une douzaine de laboratoires où la condensation de Bose-Einstein a été observée, en particulier à Paris. Je montre ici le résultat obtenu dans l'équipe de Jean Dalibard à l'École normale supérieure sur le rubidium, où après des essais infructueux sur le césium qui seront expliqués au cours de ces séances, voici en dessous du seuil également. Au moment où le seuil apparaît, et au-dessus du seuil, il y a également une condensation de Bose-Einstein qui est observée à Orsay dans l'équipe d'Alain HP. Enfin, j'ai le grand plaisir, le grand bonheur d'annoncer que l'équipe de MIT de Dan Kleppner et Tom Kreta, qui en fait est l'équipe qui a démarré ce type de recherche il y a 25 ans, a enfin réussi à obtenir et observer la condensation de Bose-Einstein sur l'atome d'hydrogène, qui était également quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, avant d'aller plus loin, c'est que dès les premiers résultats de ces études sur la condensation de Bose-Einstein, il est apparu clairement que les prédictions théoriques faites en négligeant les interactions ne permettaient pas de rendre compte des observations expérimentales, qu'il y avait dès le début une évidence expérimentale pour l'existence d'interactions qui jouent un rôle important. Et je voudrais en donner trois exemples ici. Premier exemple, dans l'expérience de MIT, on peut mesurer, on coupe brusquement les pièges, à ce moment-là, les atomes partent en vol balistique. S'il n'y avait pas d'interaction entre eux, l'énergie qu'on observe, l'énergie cinétique qu'on observerait après une phase d'expansion balistique, serait l'énergie initiale. Or, l'énergie initiale, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Quand on coupe brusquement le piège, il n'y a plus d'énergie potentielle, c'est donc uniquement l'énergie cinétique initiale. Quand les particules sont dans le condensat, à cause de l'équipartition d'énergie, chaque degré de liberté a une énergie cinétique moyenne un quart de h bar oméga et un quart de h bar oméga d'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle par degré de liberté, c'est un quart de h bar oméga, énergie cinétique, pardon, trois dimensions, si je prends un piège isotrope, trois quarts de h bar oméga. Donc chaque particule piégée, en l'absence d'interaction, a une énergie initiale après la coupure du piège égale à trois quarts de h bar oméga. Si on mesure l'énergie totale et qu'on divise par n après expansion, on mesure l'énergie initiale de chaque particule, qui est 3 quarts de h bar oméga, et ça ne doit pas dépendre de n. On doit obtenir quelque chose indépendant de n. S'il y a des interactions, si les particules sont concentrées là, interagissant entre elles, supposons qu'elles interagissent par des forces répulsives, quand on coupe le piège qui les maintient, ces forces répulsives vont les faire exploser plus rapidement et l'énergie d'interaction va se transformer en énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique par particule, à ce moment-là, dépendra de l'énergie d'interaction initiale et ce sera une certaine fonction du nombre total de particules. Et voilà ce qu'on observe. Donc dans l'une des publications du groupe de MIT, West, Andrews, Totten, Kuhn, Geoffrey, Caterley, on mesure l'interaction, l'énergie d'expansion, l'énergie cinétique finale de chaque particule, par particule, en fonction du nombre d'atomes condensés. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une constante. Et nous verrons, nous interpréterons cette courbe dans la suite du cours. Et la courbe en trait plein qui est ici, c'est un meilleur ajustement avec une prédiction théorique. Donc ici, on a une évidence très claire de l'existence des interactions. Quelque chose de plus net encore. On peut regarder par absorption la forme du condensat et comparer la forme du condensat mesurée expérimentalement à la forme prévue en connaissant la fonction d'onde de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Voilà par exemple des résultats obtenus par l'équipe de Roland, Hao, Bush, Liu, Dutton, Dunn et Goloshenko. Ici, la courbe en très pointillé, c'est la forme qu'aurait le condensat si toutes les particules étaient dans l'état fondamental du piège. C'est la racine de h bar sur m oméga avec une gaussienne. C'est la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique de l'état fondamental. Les points ici sont des points expérimentaux. Vous voyez que ce n'est pas le petit effet. La largeur du nuage est près de 3 fois plus grande que la largeur du condensat est près de 3 fois plus grande que la largeur théorique. Et la courbe en trait plein est la courbe prévue théorique à partir une théorie tenant compte des interactions à forte intensité qui utilise ce qu'on appelle l'approximation de Thomas Fermi. Et vous voyez d'ailleurs clairement que la courbe théorique ne ressemble pas du tout à une gaussienne, elle ressemble à une parabole inversée, c'est ce que la prédiction du modèle de Thomas Fermi. Donc j'insiste sur ces deux points, vous voyez que les effets des interactions, bien que le gaz soit dilué, ce n'est pas des petits effets, c'est des effets par un facteur 3. C'est des gros effets. Enfin, dernier exemple que je voulais donner, et j'ai reçu le tiré à part uniquement ces jours-ci, c'est l'expérience de l'hydrogène. L'hydrogène a été très difficile à étudier parce qu'on ne dispose pas aussi facilement que pour les alcalins des méthodes optiques de détection. Les Rayleigh-Mann alpha, c'est pas tellement facile pour faire une image du condensat. Et bien, c'est grâce aux interactions que la condensation de Bose-Einstein a pu être détectée pour l'hydrogène. En effet, ce que font Yannick Zadak et leurs collaborateurs, d'étudier l'arrêt à 1 de photons, l'arrêt à 2 photons dans l'hydrogène piégé qui relie l'état 1s à l'état 2s. Donc ceci, ce n'est pas encore publié, c'est un tiré à part, mais ça va être publié, je pense, dans Physical Ordinateur très prochainement. Et vous voyez que si on fait la spectroscopie à 2 photons sur l'atome d'hydrogène piégé, d'abord, vous voyez une raie très étroite ici. Ça provient des atomes qui sont dans le nuage thermique, qui sont très faible densité parce que le nuage thermique est gros, et dont la fréquence, si l'atome absorbe deux photons de propagation sans s'opposer, c'est bien connu de la spectroscopie à deux photons sans effet Doppler, la raie est sans effet Doppler, on a donc une raie très fine parce que 1s et 2s ont des durées de vie très longues, Et comme il n'y a pas de déplacement dû aux collisions parce que le milieu est très dilué, le nuage est gros, on obtient une règle très fine. On obtient ici une raie très large, avec des ronds vides ici, qui est que quand on met les atomes piégés entre deux faisceaux laser propageant en sorte opposée, bien sûr, ils peuvent absorber un photon là, et avoir la raie sans effet Doppler, mais ils peuvent absorber deux photons dans le sens, ou deux photons dans le sens, auquel cas il y a un effet Doppler considérable. À ce moment-là, la raie est large, et ça, c'est la raie à deux photons avec effet Doppler des atomes du nuage thermique qui est élargi. Enfin, vous voyez cette raie-là, avec les raies de points noirs, et cette raie-là provient des atomes qui sont dans le condensat. Le condensat est extrêmement intense, extrêmement dense, pardon. Ils ont 10 puissance 9 atomes dans le condensat, qui est 1000 fois plus que les alcalins. Et à ce moment-là, comme le condensat est très dense, on peut montrer qu'il y a un déplacement collisionnel de la raie 1 à 2 photons, qui fait que dans l'absorption à 2 photons sans effet Doppler, les atomes qui sont dans le condensat ont une fréquence de résonance différente des atomes qui sont dans le nuage thermique. Et donc on les distingue de cette manière. Pourquoi la raie est plus large ici que là? C'est que le condensat a une certaine forme. Au centre, la densité est forte. Sur les ailes du condensat, la densité est moins forte. Donc le déplacement collisionnel varie à l'intérieur du condensat. D'ailleurs, la forme de ce pic doit donner des informations sur la répartition en densité spatiale des atomes piégés. Enfin, vous voyez même que quand on descend, on arrive au seuil de condensation, on voit apparaître la raie avec effet Doppler. Une structure nouvelle apparaît, c'est qu'à ce moment-là, les atomes qui sont dans le condensat absorbent aussi deux photons dans le même sens, donc ils donnent une raie avec effet Doppler, mais comme leur répartition d'impulsion est beaucoup plus petite que les atomes du nuage, parce qu'ils sont beaucoup plus froids, à ce moment-là, l'effet Doppler est beaucoup plus petit, et on voit donc apparaître donc, une raie à deux photons avec effet Doppler des atomes du condensat dans ce pic-là. Donc vous voyez que dans ce cas particulier, ce sont les interactions qui donnent, par l'intermédiaire du déplacement collisionnel, le signal permettant de détecter l'apparition du seuil de condensation de Bose-Einstein. Donc j'espère avoir convaincu par ces trois exemples de la nécessité de passer à l'étude des collisions, et c'est un peu l'objet du cours de cette année, comment sont modifiées les prédictions du cours de l'an dernier pour des gaz parfaits de bosons, comment sont-elles modifiées par les effets des interactions? Est-ce que les effets sont facilement observables? Est-ce qu'on peut les calculer théoriquement? Et surtout, ce qui est le plus excitant, c'est est-ce qu'on peut retrouver des propriétés macroscopiques comme la dimension d'un condensat, d'un objet quantique? Un condensat, c'est un objet quantique macroscopique. Est-ce qu'on peut comprendre sa forme, ses modes propres de vibration, son évolution dynamique, à partir de paramètres microscopiques qui sont les paramètres des collisions? Peut-être pour vous convaincre du fait que l'effet des interactions peut être importante, même pour un milieu très dilué, comme un gaz, il me semble intéressant maintenant de faire quelques calculs d'ordre de grandeur, avec les mains, sans entrer dans le détail, je reviendrai bien sûr beaucoup plus à fond sur ces problèmes. Prenons d'abord des atomes piégés et négligeons les interactions. Quand ils sont dans un piège, quelle est l'énergie de piégeage? J'appelle epsilon piège, et c'est typiquement de l'ordre de alpha oméga. Donc, très grave des facteurs 2, énergie potentielle, énergie cinétique, typiquement, alpha oméga représente l'énergie de piégeage d'un atome. Je peux encore écrire ça sous la forme égale alpha 2 sur n delta x 0 carré, ou delta x 0 égale de l'ordre racine de alpha sur n oméga. C'est l'extension de l'état fondamental du piège. Premier point. Maintenant, tenons compte des interactions. Alors là, je vais anticiper un tout petit peu sur le cours de cette année et quel est l'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction par atome. Je l'appelle epsilon interaction. Bien, epsilon interaction va être visiblement proportionnel à la densité d'atomes. Plus la densité spatiale d'atomes est importante, plus chaque atome a des voisins avec lesquels il peut interagir, et plus l'interaction va être importante. Donc l'interaction va être proportionnelle à G, une certaine constante de couplage, N, la densité spatiale, et N, c'est N sur V. C'est-à-dire N, le nombre total d'atomes. Je suppose que tous les atomes sont dans mon condensat. Le volume du condensat, c'est grosso modo delta x0 cube. Alors qu'est-ce que c'est que G? C'est là que j'anticipe un petit peu sur la suite du cours. À des facteurs pi près, G, c'est de l'ordre de h bar 2 sur m, a, où est une longueur. En effet, G, c'est une énergie divisée, que multiplie le cube d'une distance, puisque m, c'est 1 sur une distance au cube. Et là, vous trouvez bien quelque chose de h bar 2. Si je multiplie au bas par carré d'une distance, h bar 2 sur m carré d'une distance est une énergie, et ici, j'ai une distance au cube. Donc ça vient, c'est bien homogène. Et qu'est-ce que c'est que a? A, c'est donc une longueur qui va jouer un rôle fondamental dans tout le cours de cette année, qu'on appelle la longueur de diffusion. C'est une grandeur caractéristique qui caractérise les collisions entre atomes ultra-froids qui entrent en collision dans l'onde S. Alors aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail ce que c'est, je reviendrai là-dessus. Disons que ça donne typiquement l'ordre de grandeur du rayon de l'atome, puisque la section sigma totale, sigma totale, est donnée par 8pi à 2. On trouve la même section efficace si on prenait des sphères dures, interagissant avec un potentiel infiniment répulsif quand les sphères se touchent, des sphères dures de rayon A. Donc petit a, c'est grosso modo le rayon de l'atome. Alors, dernière quantité que je voudrais introduire, distance moyenne entre atomes. Et je l'appelle L. Alors comment je fais pour avoir L? Je prends le volume total, delta x0 cube. Je divise par N. J'obtiens le volume par atome. Et ce volume par atome, c'est le volume de sa place, son espace propre, c'est L3. Donc la distance moyenne par atome est donnée par delta x0 sur N égale L. Donc ça me fait donc un delta x0 égale L cube qui multiplie N, c'est-à-dire V delta x0 sur L égale N puissance 1 tiers. Bien, alors ceci étant, je vais maintenant calculer l'énergie d'interaction divisée par l'énergie de piège. On dit, j'ai des atomes qui sont dans un piège, ils ont une énergie de piégeage. Quelle est leur énergie d'interaction comparée à leur énergie de piégeage? Si elle est très petite, l'énergie d'interaction, il faut oublier l'interaction. Si elle est grande, attention, il faut que j'en tienne compte. Alors, je prends cette formule-là, Gn avec ça, je divise par ça, et j'obtiens epsilon égale donc h bar 2 sur m a n sur delta x0 q. Ça c'est Gn, divisé par epsilon piège, qui est h bar 2 sur m, 1 sur delta x0 carré. Ça se simplifie, et j'obtiens quelque chose de très simple, a sur delta x0, qui multiplie n. Deuxième chose, maintenant je sais que vaut maintenant petit a, le rayon des atomes, la longueur de diffusion, divisé par la distance moyenne qui les sépare. Eh bien, la distance moyenne qui les sépare, c'est delta x0 sur n puissance 1 tiers. Donc, ceci, c'est a sur delta x0, n à la puissance 1 tiers. Alors maintenant, donnons quelques ordres de grandeur. Je prends des ordres de grandeur qui sont tirés d'un séminaire de Quetterlé sur le sodium. Typiquement pour le sodium, petit a, la longueur de diffusion est de l'ordre de 3 nanomètres, c'est-à-dire 30 angstroms. delta X0 dans les pièges qui sont réalisés à MIT est de l'ordre de 30 microns. H bar, racine carrée de H bar sur M oméga. Et N est de l'ordre de 10 puissance 6. Alors, A sur delta X0, 3 nanomètres divisé par 30 microns, ça fait 10 puissance moins 4. Donc, effectivement, ce facteur est tout petit. Le rayon de chaque atome est très petit devant la dimension du piège. Le piège est macroscopique. Mais ce nombre petit multiplié par 10 puissance 6, ça me donne quelque chose de l'ordre de 10 puissance 2. Et vous voyez donc que, dans un piège typique, si tous les atomes étaient dans l'état fondamental du piège, sans cet état fondamental change de caractéristique, l'énergie d'interaction serait 100 fois plus grande que l'énergie de piégeage. Donc c'est un effet énorme. Alors, vous allez me dire, mais pour atteindre ces régimes, il faut mettre tellement d'atomes dans le piège que leur distance mutuelle des atomes est plus petite que A. C'est pas vrai. Ici, j'ai 10 moins 4. Le rayon des atomes divisé par les distances moyennes qui les séparent, c'est 10 moins 4. Et si je prends N égale 10 puissance 6, N puissance 1 tiers, c'est 10 puissance 2. Et ceci, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 2. Donc, même quand l'énergie d'interaction devient 100 fois plus grande que l'énergie de piégeage, la distance moyenne entre les atomes est 100 fois plus grande que le rayon. Donc, c'est un milieu dilué. Et ce petit calcul montre très clairement le point le plus important, je crois, c'est que la condensation de Bose-Einstein dans des gaz ultra-froids permet de mettre en évidence les effets d'interaction dans un milieu dilué. J'appelle milieu dilué un milieu où la distance moyenne entre les atomes est grande devant la distance caractéristique qui caractérise les interactions entre atomes. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir étudier le problème en négligeant les collisions ternaires, première approximation, et en faisant des calculs où, à l'ordre le plus bas, en n, petit n, la densité spatiale qui multiplie a au cube, où a est la longueur de diffusion. Donc, ceci étant, j'espère vous avoir convaincu par ce calcul d'ordre de grandeur que les effets d'interaction sont importants et qu'ils peuvent donner naissance à des effets spectaculaires. Et je vais maintenant, très rapidement, vous donner un peu le plan du début du cours. Je me bornerai à parler du début parce que chaque année je donne un plan et en général comme je vais beaucoup plus lentement, je ne fais pas les dernières parties, donc je ne donne que le début et puis si j'ai le temps d'aller plus loin, tant mieux. Donc j'espère vous avoir convaincu que la première chose à faire, c'est d'étudier évidemment les collisions entre atomes ultra-froids. Les collisions entre basse énergie. Alors ça c'est un sujet extrêmement intéressant, très 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 important, qui a pris beaucoup de renouveau d'intérêt considérable ces derniers temps. Et il repose sur un petit nombre. On peut décrire tout ce qui se passe au moyen d'un petit nombre de paramètres, qui sont le déphasage dans l'envers. Qui dépend bien sûr de l'énergie. Ça. En effet, quand. Vous savez que des atomes dans une onde de moments cinétiques non nuls passent l'un à côté de l'autre à des distances supérieures à la longueur d'onde de De Broglie. Si la longueur d'onde de De Broglie devient beaucoup plus grande que la portée du potentiel, dès que L est différente de 0, les atomes ne s'approchent pas suffisamment pour sentir l'effet du potentiel et on peut donc négliger l'effet des collisions sur eux. Donc les collisions s'effectuent essentiellement dans l'onde S, L égale 0, et comme vous le savez, pour un potentiel central, c'est entièrement caractérisé par les déphasages delta 0. Il y a une quantité importante qui se définit à partir de la limite K tendant vers 0 du déphasage, qu'on appelle la longueur de diffusion, que j'ai mentionné déjà. Petit A. Et enfin, je parlerai également d'une autre quantité qu'on appelle la portée effective RE. J'essaierai de d'expliquer un petit peu l'interprétation physique de tous ces paramètres, d'expliquer ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que suivant le signe de A, A peut être positif ou négatif, suivant le signe de A, l'interaction effective à grande distance des atomes est soit attractive, soit répulsive. Ça, c'est une chose importante. Deuxième point, j'introduirai la notion de pseudo-potentiel. En effet, le vrai potentiel d'interaction est en général assez complexe. C'est un potentiel van der Waals loin, puis très répulsif court. En général, quand on veut faire des calculs à l'ordre le plus bas en n1 cube, on ne veut pas s'encombrer de tout le calcul du potentiel, du vrai potentiel, et il est fréquent dans toutes les études, la plupart des études faites, pas toutes, de remplacer le vrai potentiel par un pseudo-potentiel qui donne la même longueur de diffusion et qui permet des calculs plus simples. Néanmoins, c'est extrêmement délicat, il y a des pièges dans lesquels on peut tomber, et il m'a semblé intéressant de passer un certain temps pour essayer d'éclaircir ce point et de montrer l'intérêt des pseudo-potentiels et les dangers qui leur sont associés, comment il faut les manipuler avec précaution. Ensuite, troisième point que je voudrais aborder, c'est la structure du condensat dans un piège. Introduire la notion de champ moyen. Calculer l'énergie moyenne d'interaction par atome et établir l'équation qui permet de calculer de manière variationnelle la fonction d'onde des atomes condensés qu'on appelle l'équation de Gross-Pitaïsky. C'est une équation qui joue un rôle très important dans toutes ces études. Quand les atomes ont une longueur d'onde de diffusion négative, ils s'attirent, et à ce moment-là, on peut se poser la question, quand les atomes sont piégés et qu'ils s'attirent, est-ce que le condensat va se... en anglais, on dit collapse, il y a un effondrement, une catastrophe, est-ce que le condensat va disparaître? La réponse est pas toujours, si le nombre d'atomes est suffisamment petit, il ne disparaît pas, il ne s'effondre pas sur lui-même, donc le problème de la stabilité pour un négatif est un problème intéressant, que je vais étudier. Et également, je voudrais étudier la limite. Alors la limite de ce fameux paramètre que j'ai introduit, la limite AN sur delta X0, très grandement, hein, la limite où l'énergie des interactions par atome est beaucoup plus grande que l'énergie de piégeage, et où à ce moment-là on peut faire des approximations qui ont l'intérêt de conduire à des expressions analytiques pour toutes les grandeurs physiques. On peut calculer analytiquement la forme géométrique du condensat, ce qu'on appelle l'approximation de Thomas Fermi. Ensuite, toutes ces méthodes reposent sur l'idée du champ moyen. J'apporterai ensuite quelque chose d'un peu plus sophistiqué, qui est la preuve de Bobo-Dubov. Pour un système homogène, d'abord. Système homogène, ça veut dire un système dans une boîte de côté L, sans potentiel extérieur, qui concentre les atomes en un point donné. Approche que certains auteurs appellent aussi approche de Hartree-Fock dépendant du temps ou approche phase aléatoire. L'intérêt, c'est que cette approche nous permet pour un système homogène de calculer les premières excitations élémentaires, de calculer par exemple les ondes sonores qui propagent dans le condensat, permet de calculer aussi les corrélations spatiales qui existent entre atomes, permet de calculer la fonction de corrélation à deux corps. Une particule étant là, quelle est la probabilité d'en trouver une autre à une distance R? Ça permet de calculer, d'introduire la notion de longueur de cohérence. Enfin, j'aborderai enfin la dynamique partant d'un système homogène à un système inhomogène, dynamique du condensat dans un piège. Quels sont les modes propres de vibration d'un condensat? Qu'est-ce qui se passe quand on coupe brusquement le piège et le condensat à une période d'expansion balistique? On peut en quelque sorte l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps. Et un petit peu la généralisation de l'approche de Bobo-Dubov à des systèmes inhomogènes. Puis si j'ai ensuite le temps, j'essaierai de calculer le modèle à deux fluides, le gaz thermique plus le gaz condensé, mais je préfère pas trop m'avancer ici. Voici donc l'organisation générale du cours. Dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais maintenant commencer les collisions et vous rappeler avec quatre transparents, un petit nombre de transparents simplement, quelques résultats élémentaires sur la diffusion d'une particule de masse mu par un potentiel. J'aurai besoin d'un certain nombre de formules et il m'a semblé intéressant aujourd'hui de les rassembler sur quatre transparents. Donc, quand on sépare le mouvement de deux particules qui entrent en collision l'une avec l'autre, on est ramené, après séparation du mouvement du centre de masse, à étudier le mouvement d'une particule fictive, la particule relative de masse mu et la masse réduite, dans un potentiel V, qui dépend de la distance entre les deux particules. Alors, une notion importante, évidemment, il faut diagonaliser l'hamiltonien, c'est-à-dire résoudre l'équation aux valeurs propres, moins h bar 2 sur 2 mu laplacien plus v de r fois phi de r égale e phi de r. Dans tous ces problèmes, plutôt que l'énergie, on préfère utiliser k par la relation e égale h bar 2, pardon, h bar 2 k2 sur 2 mu. Et de même, on pose v de r égale h bar 2 sur 2 mu u de r. Et l'équation de Schrödinger prend à ce moment-là une forme beaucoup plus simple qui est laplacien plus k2 moins U de R, phi de R égale 0. Alors, les états propres d'énergie positive de cette équation ne sont pas tous intéressants pour la collision. Pour étudier une collision, il faut introduire ce qu'on appelle des états stationnaires de diffusion qui ont une forme asymptotique bien définie pour les R grands. Un état stationnaire de diffusion... plus épuissance I KR sur R, une onde sphérique sortante, dont l'amplitude dépend des angles polaires θ et φ qui caractérisent la direction d'observation, plus FK de θ et φ, épuissance I KR sur R. Cette fonction propre de H, quand on la superpose, quand on superpose des fonctions de cas différents, on peut décrire un paquet d'ondes qui arrive sur, le centre potentiel diffuseur et qui donne naissance à un paquet d'ondes transmis et un paquet d'ondes diffusées. FK de θ φ, c'est l'objet central de la théorie de la diffusion, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de diffusion. Et si on connaît FK, on connaît la section efficace, qui est le module au carré de FK de θ φ. J'aurai besoin, dans la suite du cours, d'utiliser une forme intégrale de l'amplitude de diffusion. Et pour cela, il faut introduire la fonction de Green, sortante de l'opérateur delta plus K2, qui est définie par delta plus K2 G plus 2R, plus c'est pour sortant, égale delta de R, où delta est la fonction delta. Cette équation, sa solution, est G plus de R égale moins 1 sur 4pi, et puissance IKR sur R, c'est une onde sortante, et donc elle satisfait l'équation delta plus K2, G plus de R égale delta de R. À ce moment-là, je prétends que si je prends la fonction et puissance IKZ plus intégrale sur R' de D3R', G plus de R moins R', U de R', VK diff de R', ça c'est une équation intégrale parce que VK diff est relié à l'intégrale de VK diff, je prétends que cette expression, si je trouve une solution de cette équation, elle est solution de celle-là. En effet, si j'applique delta plus K2 au membre de droite, delta plus K2 agissant sur épuissance IKZ donne 0, delta plus K2 agissant sur G plus de R moins R', ça va me donner delta de R moins R'. Ça simplifie l'intégrale sur R', ça va me donner U de R, VK diff de R. Donc delta plus K2 agissant sur VK diff de R est égal à U de R, VK diff de R. Donc premier résultat, VK diff est bien une solution. Si je trouve une solution de cette équation, VK diff est bien une solution. Il me reste à montrer maintenant que VK diff a bien ce comportement asymptotique pour prétendre que ceci est un état stationnaire de diffusion. La réponse est simple. Elle provient simplement de cette remarque. Si je prends G plus de R moins R', ça se comporte comme 1 sur E puissance IK R moins R' sur R moins R'. Si R est très très grand devant R', 1 sur R moins R', 1 sur cette distance, la longueur du segment rouge est pratiquement 1 sur R, pratiquement égale à 1 sur R. Par contre, je ne peux pas faire la même approximation dans l'exponentielle parce que les puissances ik r moins r' varient beaucoup. Mais à ce moment-là, je m'aperçois que la distance, la longueur de ce segment rouge est égale à r moins la projection de r' sur la droite au r, c'est-à-dire r' scalaire fois u. Donc je peux écrire g plus de r moins r' égale moins 1 sur 4pi, et puissance ikr sur r, et puissance moins ik u, où u est le vecteur unitaire dans la direction r, que multiplie r'. Si je reporte cette forme ici, je peux sortir, comme l'intégrale est sur r', je peux sortir la puissance ikr sur r, et ça me montre que vk dit de r est égal à e puissance ikz plus e puissance ikr sur r qui multiplie quelque chose, ça a bien le comportement asymptotique voulu pour r tendant à l'infini, et de plus, en prime, j'ai l'expression de l'amplitude de diffusion, qu'on obtient ainsi, vk diffusion égale moins 1 sur 4pi, somme de d3r', et puissance moins i kf r', u de r', vk dit de r', où kf, c'est le vecteur d'onde dans la direction d'observation, c'est le vecteur d'onde de la particule diffusée. Donc cette expression est exacte, et elle est très commode parce qu'elle va me permettre alors de faire des approximations. Approximation de bande, quand on fait l'approximation de bande, on développe l'amplitude de diffusion sous forme d'un développement en puissance du potentiel, et si je regarde cette expression, et si je regarde l'expression de VK10, qui est ici, VK10, le terme d'ordre 0 en potentiel, c'est puissance IKZ, c'est l'onde plane, et puis le terme, je peux remettre ici la même équation, et itérer l'équation intégrale, et obtenir un développement en puissance de V de VK10, si je me limite ici à l'ordre le plus bas, puisque j'ai déjà le potentiel une fois. Je remplace ici VK10 par les puissances IKI R', où KI est l'axe Z, le vecteur d'onde incident, et j'obtiens alors quelque chose d'extrêmement simple. J'obtiens qu'à l'approximation de bande, l'amplitude de diffusion, c'est moins 1 sur 4pi, somme de d3 R', et puissance IKI moins KF R', U de R'. J'obtiens donc que à l'approximation de bande, l'amplitude de diffusion est simplement la transformée de Fourier du potentiel à KI moins KF, où KI est le vecteur d'onde incident, KF le vecteur d'onde diffusée. À très très basse énergie, KI et KF ont des modules qui tendent vers 0, et si KI et KF sont tels que KR0, où R0 est la portée du potentiel, est plus petit que 1, je peux remplacer cette exponentielle par 1, et j'obtiens un résultat très important qui me sera utile dans la suite, c'est que si le potentiel peut être traité par l'approximation de bande, l'amplitude de diffusion est tout simplement l'intégrale spatiale du potentiel, moins 1 sur 4pi, somme de d3 R' de u de r'. En particulier, si je prends un potentiel en fonction delta, a delta de r, l'intégrale du potentiel c'est a, et on verra donc à ce moment-là, si je prends un potentiel g delta de r, l'intégrale du potentiel c'est g, et à ce moment-là, l'amplitude de diffusion à l'approximation de bande sera simplement proportionnelle à g. Un point important à réaliser, quelle est la condition de validité de l'approximation de bande? Si je reviens à cette équation, il faut que, quand je remplace VK dit de R' par E puissance IKZ, il faut que ce terme, qui est la première correction, soit plus petite que le terme d'ordre 0 qui est ici. Et si je suis à très basse énergie, quand je peux remplacer K par 0, le terme d'ordre 0 vaut 1, il faut donc que l'intégrale de ceci en remplaçant ceci par 1, soit très petite. Or, g plus de r moins r', c'est e puissance ik r moins r' sur r moins r'. Si je prends k égale 0, k très petit, c'est 1 sur r moins r'. Je m'aperçois donc que la condition de validité de l'approximation de bande, c'est qu'il faut que somme de d3 de r', 1 sur r moins r', u de r', soit petit devant 1. Si je prends un potentiel qui a la valeur u0, dans une région d'extension spatiale de l'ordre de R0, on trouve aisément à ce moment-là qu'il faut que le potentiel U0 que multiplie R0 carré soit très petit devant 1, et en revenant de U à V par V égale H bar 2 sur 2 mu U, on trouve qu'il faut que V0 soit très petit devant H bar 2 sur 2 mu R0 carré, et ça a une signification physique très simple. Borne est valable à très basse énergie si le potentiel, l'énergie potentielle dans le potentiel V0 typique, est beaucoup plus petite que h bar 2 sur 2 mu r0 carré, qui est l'énergie cinétique de confinement d'une particule de masse mu dans la d'une région de dimension R0 ou R0, la zone d'action du potentiel. Il faut donc que l'énergie potentielle soit très petite devant l'énergie cinétique de confinement. Ça aussi, c'est un résultat important dont j'aurai besoin par la suite. En général, les interactions ne dépendent pas de la position dans l'absolue de R-R', mais dépendent uniquement de la distance R-R'. Et donc, le cas du potentiel central est très, très important, où V de R, flèche, V ne dépend que de R sans flèche, V ne dépend que de la distance R. Si le potentiel ne dépend que de la distance, il est invariant par rotation, donc l'hamiltonien commute avec le moment cinétique orbital, avec L2, Lz, et on peut trouver des valeurs propres, des fonctions propres de H, qui sont également fonctions propres de L2, Lz, c'est-à-dire chercher des solutions de la forme, RKL de R, YLM de θ phi, YLM est l'harmonique sphérique. Il est courant de poser RKL de R égale 1 sur R petit UKL de R, et j'appellerai UKL de R la fonction radiale à partir de maintenant. La fonction radiale satisfait à l'équation D2 sur DR2 plus K2 moins LL plus 1 sur R2 moins U de R, UKL de R égale 0. Et vous voyez que c'est le mouvement d'une particule à une dimension qui serait soumise à un potentiel U de R plus un potentiel centrifuge LL plus 1 sur R2. Alors, il faut bien, là ici, il y a une petite difficulté, il faut bien voir que les solutions de cette équation ne sont pas forcément solutions de l'équation de Schrödinger à trois dimensions. Il faut que cette fonction-là, grand R, KL de R, n'est pas de, est un comportement gentil près de l'origine, ne se comporte pas comme 1 sur R ou des quantités plus importantes, de manière que l'action du Laplacien sur cette fonction ne donne pas naissance à des distributions delta. Et on peut montrer à ce moment-là que la condition qu'il faut ajouter à l'équation qui est ici, c'est que la fonction UKL doit s'annuler à l'origine pour que RKL de R ne présente pas de singularité en 1 sur R près de l'origine. Donc le problème se ramène à trouver les fonctions propres de cet opérateur satisfaisant cette condition initiale en R égale 0. On sait résoudre ce problème quand U égale 0, et à ce moment-là, les fonctions propres correspondantes, c'est ce qu'on appelle les harmoniques, les ondes sphériques libres. Elles sont données par la forme suivante, racine de 2k2 sur pi, jl de kr ylm, où jl de kr, c'est ce qu'on appelle la fonction de Bessel sphérique. J'ai besoin ici que de deux choses, le comportement de la fonction de Bessel voisinage de 0, jl de ρ se comporte comme ρ à la puissance L, et du comportement de la fonction de Bessel sphérique pour ρ grand. Pour ρ grand, jl de ρ se comporte comme 1 sur ρ, sinus ρ moins lπ sur 2. De sorte que quand je rentre, ça veut dire que u ici se comporte comme sinus de ρ moins lπ sur 2. Donc la fonction radiale u, pour une particule libre, se comporte comme sinus ρ moins lπ sur 2. Avec ρ égale kr. Si je regarde maintenant le comportement asymptotique pour r grand de la l'onde sphérique libre, si je développe 1 sur ρ sinus ρ moins, si j'écris sinus et puissance i moins et puissance moins i sur 2i, je m'aperçois que phi KLM de R se comporte pour R grand comme une harmonique sphérique qui multiplie un coefficient, que multiplie 1 sur 2i KR, une onde entrante et puissance moins i KR moins lπ sur 2, plus une onde sortante et puissance plus i KR moins lπ sur 2. Donc une harmonique sphérique. Pardon, une onde sphérique libre en R grand, c'est la superposition d'une onde entrante et d'une onde sortante. Et voici les deux ondes qui sont marquées ici. On peut développer toute onde plane en onde sphérique libre, puisque les ondes sphériques libres forment une base orthonormée. Et je donne ici l'expression de la puissance IKZ en onde sphérique libre. Ce qui est intéressant, c'est que M égale 0, en effet, puissance IKZ est invariant par rotation autour de Z, et donc seul m égale 0 apparaît dans le développement. Et le seul point qui m'intéresse ici, c'est que les puissances IKZ est une certaine superposition somme sur L de CL, phi KL 0, 0 de R. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un potentiel, quand le potentiel n'est pas nul? Les ondes sphériques libres, c'est quand il n'y a pas de potentiel. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un potentiel? Imaginons qu'on prenne la même onde sphérique entrante que celle qui existe dans le développement, dans une onde sphérique libre. Je prends la même onde sphérique entrante. C'est-à-dire pour l'équation à une dimension, je prends la même puissance moins i kr entrante. Que fait le potentiel? L'opérateur est hermétique, il conserve la norme, donc le nombre de particules qui ressortent est égal au nombre de particules qui rentrent. Donc l'onde sphérique, l'onde entrante, va donner naissance à une onde sortante de même module. La seule chose que le potentiel peut faire, c'est introduire un capteur de phase. D'accord? Donc, le seul effet du potentiel, c'est d'introduire sur l'onde sortante un certain déphasage par rapport à l'onde sortante qui existe dans l'absence de potentiel. J'en déduis qu'il existe une fonction propre de H, que j'appelais phi Km de R sans le 0. Le 0 c'était en haut, c'était pour expliquer que U était nul. Il existe une onde propre, une fonction propre de H qui a le comportement asymptotique suivant, le même coefficient que pour l'onde sphérique libre, la même onde entrante et puissance moins IKR, L moins L pi sur 2, le même facteur 1 sur 2 IKR. La seule différence, c'est que dans l'onde sortante, au lieu d'avoir E puissance IKR moins L pi sur 2, j'ai E puissance IKR moins L pi sur 2 qui multiplie un facteur de phase qu'on pense égal à E puissance 2J delta L. Dans d'autres termes, pour V égale 0, la fonction radiale UKL indice 0 se comporte comme sinus KR moins L pi sur 2. En présence du potentiel, la solution de l'équation radiale pour R grand doit se comporter comme UKL de R, de l'ordre de sinus KR moins L pi sur 2 plus delta L. Donc si on résout par exemple numériquement l'équation de Schrödinger, on trouve un sinus et on compare le sinus au sinus de la particule libre et on trouve ainsi numériquement le déphasage. D'accord? Alors maintenant, si je reviens à cette équation, et si je réécris E puissance 2J delta L égale 1 plus 2J E puissance I delta L sinus delta L, le 1 ici, quand je le remplaçais, ça me donnait la même chose que l'onde sphérique libre, de sorte que si je prends une superposition des ondes sphériques perturbées avec les mêmes coefficients que pour l'onde sphérique libre, quand je remplace E puissance 2J delta L par 1, je vais avoir exactement l'onde plane. Donc ce terme-là va me redonner l'onde plane. Et le terme qui est suivant ici va me donner quelque chose qui ne contiendra qu'une onde sphérique sortante. Et j'obtiendrai donc, dans cette superposition d'état ici, qui est un état propre de H, une onde plane plus une onde sortante. Donc ceci est forcément un état stationnaire de diffusion. Et en plus, en prime, j'obtiens l'expression de l'amplitude de diffusion en fonction des décalages. Et c'est la dernière formule sur laquelle je m'arrête. On obtient Fk de θ, l'amplitude de diffusion, égale 1 sur k, somme de L égale 0 à l'infini, de racine de 4 pi, 2L plus 1, et puissance I delta L, sinus delta L, YL0 de θ. Donc, résultat extrêmement important, dans un potentiel central, si on est capable de calculer les déphasages, delta 0, delta 1, delta 2, etc., on connaît l'amplitude de diffusion. Et ce qui est très important en plus pour des atomes très froids, quand l'énergie est très faible, seul le déphasage delta 0 va jouer un rôle important parce que dès que les particules entrent en collision dans L différent de 0, elles ne se sentent pas mutuellement. Donc on peut se limiter à delta 0 et à ce moment-là, on a une expression très simple. On a une expression explicite pour l'amplitude de diffusion qui ne fait intervenir que le déphasage delta 0. Et c'est à partir de cette expression ensuite que nous allons faire ensuite tous les calculs importants relatifs aux collisions ultra-froides. Il ne faut pas néanmoins oublier que si on augmente trop un peu l'énergie, si on regarde les variations de ce qui se passe avec l'énergie de la particule, les ondes partielles de L plus grand peuvent commencer à jouer un rôle important, surtout si dans le potentiel, dans le puits de potentiel associé au potentiel centrifuge, existe des états quasi-liés qui peuvent donner naissance à des résonances de diffusion. Mais pour la plupart des phénomènes, on peut se concentrer de l'onde S et à ce moment-là, l'amplitude de diffusion est tout simplement F0 égale 1 sur racine 1 sur K, racine de 4 pi, et puissance I delta 0, sinus delta 0, et l'amplitude de Y égale 0, 0, c'est tout simplement 1 sur racine de 4 pi. Donc on a une expression uniquement et puissance I delta 0, sinus delta 0 sur K. Je m'arrête là, ces rappels. Je m'excuse pour ceux d'entre vous qui sont déjà familiers avec ces choses-là, mais il me semblait indispensable d'avoir les formules importantes qui vont me permettre d'enchaîner sur la suite. Donc la semaine prochaine, j'aborderai l'étude des collisions ultra-froides.